Hello, hello, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le Maki, le podcast de l'Amica des étudiants caribéens, africains, sympathisants et plus connus sous le nom d'Amicas. Histoire, culture, économie, société ou encore géopolitique. Si vous avez une appétence pour ces sujets et que vous portez en plus un intérêt particulier pour l'Afrique et les mondes afrodescendants, ou surtout que vous souhaitez simplement en apprendre davantage, alors vous êtes au bon endroit.
Je trouve qu'on a bien organisé la CAN. On a organisé la meilleure CAN qui soit, parce que les gens aussi le disent. Les Camerounais, comme ça, ils viennent comparer pour eux et pour nous. C'est pas la même chose. On les bat bien, joue même. On vient comparer et les CAN pour nous, c'est pas la même chose. Et même, ils savent qu'on n'est pas à égalité. Ils ne peuvent pas comparer les Camerounais avec la Côte d'Ivoire.
Ok, donc moi, c'est Christian Gauze, étudiant ivoirien en sciences politiques à Paris-Saclay, en alternance. La CAN en trois mots, je dirais compétition, panafricanisme et fraternité.
Bon, moi c'est Ibrahim, étudiant malien en communication. À côté de ça, j'ai d'autres activités, vidéaste, monteur vidéo, créateur de contenu. J'ai aussi un ami à moi qui a son média, Koyeba, où j'interviens, on fait des débats sur l'Afrique, etc. Et la CAN, pour moi, en trois mots, je dirais soft power déjà, soft power, opportunité économique et opportunité d'être à nouveau fraternel, malgré toutes les tensions qu'il peut y avoir dans les autres secteurs politiques, économiques, etc.
Et pour moi, c'est Diaby Mohamed Lamine. Je suis étudiant aussi ivoirien. Je suis, entre autres, ingénieur. Actuellement, je suis en année de césure. À côté, je fais de l'économie et de la philosophie. Alors pour moi, la CAN, en trois mots, ça serait fraternité, le panafricanisme et même. Parce qu'en vrai, chaque année, il y a des pépites en fait en termes de même.
Quelle est l'équipe que vous supportez actuellement à la CAN 2024?
Bon, je supporte naturellement la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, parce que je suis pas chauviniste. Donc je supporte la Côte d'Ivoire, mais aussi le Burkina Faso. Je pense que le Burkina Faso peut être un outsider. Il n'est pas compté dans les favoris, mais pour moi, c'est une équipe qui se bat bien, qui a du potentiel. Et c'est un pays qui est frère avec la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est la même chose. Je supporte les deux.
Okay. Pour moi, par défaut, Côte d'Ivoire. Parce que bon, ça fait toujours plaisir. Par ça, j'irai les pays du Sahel. Parce que bon, positionnement idéologique oblige. Et pourquoi pas le Congo? Parce que moi, ça ferait juste rigoler que le Congo gagne, tu vois. juste pour la blague.
Là, je me sens absolument pas offusqué. Hein. Absolument pas prudent. Ouais. Les Congolais.
Okay, bah, moi, c'est le Mali. Hein. Il n'y a rien d'autre à ajouter. J'aime bien aussi l'équipe du Burkina aussi et du Sénégal. J'aime bien le jeu proposé. Donc. J'espère aussi qu'elles iront loin, mais que le grand frère, qui est le Mali, gagne.
Voilà. Maliba.
Ok, merci pour cette introduction. Et donc, la première partie va nous concerner sur le sujet de la culture et de l'identité africaine. Et donc, selon vous, après avoir, en quoi la Coupe d'Afrique des Nations contribue-t-elle à renforcer l'identité culturelle des pays participants?
Oui, ça renforce effectivement l'identité et ça permet au monde de connaître cette identité. Par exemple, on a vu quand les différentes équipes sont arrivées en Côte d'Ivoire, quand ils sont sortis des avions, ils avaient arboré leur tenue traditionnelle. Ils ont montré ça. Il y a des gens qui ne connaissaient pas.
C'est une première, ça.
C'est une première, tu vois. C'est une première et quasiment eux tous, ils ont fait ça. Mmh. On a vu les tenues des Ghanéens, les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais. C'était très beau à voir. On n'avait pas forcément l'habitude de voir ça. Donc on voit que même les joueurs, les équipes commencent à prendre conscience et ils se disent que c'est une bonne fenêtre pour nous pour montrer aussi ce qu'on est, notre identité, et en être fier. Je pense que c'est quelque chose qui va s'installer. Là, c'est la première fois, mais je pense que vu que ça a bien marché, ils vont continuer à le faire et ça va être de plus en plus beau, de plus en plus sophistiqué. Pour moi, c'est vraiment un bon moyen d'affirmer son identité.
Moi, je dirais que C'est une belle vitrine pour les pays parce que là, on est dans une ère de country branding. En gros, c'est un terme en consulting pour désigner le fait qu'un pays se vende comme une marque. En fait, la France, là, on l'a vu récemment avec la France, Choose France, Chacun le Bénin, ils sont activement dans cette politique-là. Je connais quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, qui travaille sur ce sujet-là. Et il y a très peu de pays africains qui prennent conscience que le pays, ça va être un pays, ça peut être une marque aussi.
Le Rwanda,
qui le fait très bien. Il est à l'Éthiopie aussi. Et voilà, du coup, je pense que c'est...
Même le Ghana
le fait énormément auprès des diasporas afro-américaines. Mais je pense que c'est une très belle vitrine, parce que d'autant plus que quand un pays qui est inconnu, pas connu du grand monde comme la Zambie, gagne la Coupe du Monde, tout le monde se pose c'est quoi la Zambie, c'est où la Zambie, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils existent, ils sont où, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que c'est à partir du soft power du sport de manière générale qui est de plus en plus important. On est plus sur des compétitions qui sont purement sportives, on est aussi sur des compétitions qui sont purement politiques et qui se politisent de plus en plus. Et je pense que le pays qui va gagner, je pense que ce qui est de bien avec la CAN, c'est que année après année, en fait, on voit que ça a de l'importance, ça prend de l'importance. Peut-être dû au fait que la population africaine grandit, je pense que ça fait que ça fait un plus grand marché et un plus grand audimat, et que c'est un peu un cercle vertueux qui s'alimente progressivement au fil des années, et on espère que ça continuera comme ça.
Moi, je suis plutôt d'accord. Après, moi, ce que j'apprécie, c'est la culture, on va dire, ivoirienne, parce qu'il y a une multitude de peuples. En Côte d'Ivoire, chaque peuple se montre aux yeux du monde. Donc ça fait plaisir. Après, bon, il y a la gastronomie aussi.
Ah, tu connais.
À nos coups.
Ça fait aussi, ça montre aussi la puissance de l'État. Hein, parce que quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture, l'arrivée du président, même la délégation, il y avait beaucoup de présidents. Il y avait Ghana, Guinée-Équatoriale, président de la FIFA qui était là. Et quand on voit aussi la qualité des stades aussi.
Ouais.
Il y a 6 mois, la jeu contre vous, le Mali, le stade, on n'était pas trop d'accord avec l'état du stade. Et le même stade, il y a eu des améliorations nettes.
Il y a des
stades où ça joue 2 fois dans la même journée et on n'a pas entendu encore de problème. Donc, à ce niveau-là, ça va. Après, bon, il y a le problème des tickets.
Mais ouais, ça, c'est un gros problème. Très, très gros problème.
Les tickets, c'était compliqué d'avoir ça, n'est-ce pas?
Ah, oui.
Et puis surtout aussi à cause des revendeurs. Voilà. Les revendeurs. Et souvent, ils achètent tous les tickets là et puis ils viennent faire ça cher. Et parce que c'est pas, si nous, l'agence, ça plus notre front, ils savent.
Ah, bon. Bon, le truc que les revendeurs là, même là, souvent ils ont raison. Parce que les business, ça sort des présidents des FIFA là. Ça sort ses yeux. C'est ils font business et puis les petits viennent prendre pour aller vendre.
Moi, ce que j'entends, c'est que le parti au pouvoir a acheté des tickets en masse. Et le but, c'était que les partisans d'Alassane Ouattara remplissent les stades. Sauf que ceux à qui on a donné les tickets, beaucoup revendent les tickets. C'est-à-dire qu'un ticket qui revient de base à 2000 francs, 2000 francs, 3000 francs, les gars vendent ça à 20 000 francs, 30 000 francs. Certains tickets à 20 000 francs sont vendus à 200 000 francs, tu vois. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas acheter ça. Et puis, même au-delà de ça, avant quelques jours là, on pouvait pas acheter les tickets au stade. Il y avait des points de vente, mais tu pouvais pas venir comme ça te rendre au stade et puis acheter des tickets. Il faut aller acheter dans les points de vente. Alors que tu peux aller dans un point de vente, mais il n'y a pas de tickets. On te dit les tickets sont finis. Et puis, en fait, c'est-à-dire que même l'organisme qui s'occupe de la CAN a dit, avant même que les matchs commencent, que les stades sont sold out, qu'ils ont vendu tous les tickets. Mais le premier match, le stade était à moitié plein et à moitié vide. Donc, ça a créé une polémique. On s'est dit, mais si vous dites c'est sold out, où sont passés la moitié des gens? Et là, c'est quelque chose qui est récurrent. On voit que les stades ne sont pas forcément remplis. Et c'est maintenant que ça commence à se remplir.
Ouais, mais ce qui a amené en fait la situation où, à Korogo, le match Mali... non, il y a un match avant où en fait, ils ont dû laisser... fait gratuit les entrées.
Et ils distribuaient les tickets comme ça.
Tunisie contre Namibie.
Ouais, ouais.
Du coup, les passes étaient gratuites à Korogo. Pour niquer le business des gens qui vont...
Voilà, c'est ça. Il y a un gars dans la rue qui distribuait les tickets comme ça. Il donne à tout le monde, tu vois, pour remplir le stade. Parce qu'ils ont vu que leur stratégie ne marchait pas.
Pourquoi la politique intervient?
Parce qu'on est dans un contexte politique qui est assez... sensible, parce que Alassane Ouattara, il veut se présenter. Enfin, en tout cas, il y a des velléités. On ne sait pas s'il va se présenter, mais on imagine qu'il veut se présenter. Donc, pour lui, réussir la CAN, c'est une façon de dire, regardez, j'ai pu vous offrir la soi-disant plus belle CAN de tous les temps de l'histoire, c'est ce qu'ils disent.
Mais c'est un projet politique.
Hein. Même oui, clairement, c'est un projet c'est politique. Clairement politique.
Son remaniement, là, en septembre, il a mis...
Voilà, il a mis
son premier ministre.
Le premier ministre qui est à la fois premier ministre, ministre des Sports, voilà. Et qui a travaillé sur les Jeux de la Francophonie il y a quelques années. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'organisation.
Ouais, mais en fait, c'est aussi... Ça s'inscrit dans un cadre un peu problématique, c'est que on est dans un pays où il n'y a plus d'opposition, où en fait les gens ils pensent que le parti au pouvoir c'est le pays leur appartient, où en gros des gens, c'est pas envie de dire que parce que en fait ils confondent le fait que quelqu'un qui est sa fonction de base, qui est censé travailler pour le peuple, fasse ce qu'il est censé, ce pourquoi il est payé, même s'il n'est pas payé énormément, on sait très bien qu'il y a beaucoup de détournement de fonds, mais en gros il fait ce pourquoi il est là en fait. Et du coup le fait qu'il fasse ça, les gens pensent, les gens en fait lui attribuent les mérites, alors qu'en vrai il y a toute une équipe qui est autour de lui, c'est pas plus celui qui le fait. Et aussi le fait que les gens ils pensent que parce que il a fait ça, du coup il doit automatiquement être réélu. Je veux dire, c'est con quoi.
Ouais, c'est... Et il y a des gens qui en fait, dès que la cérémonie d'ouverture là a été faite, on a vu beaucoup d'affiches sur les réseaux sociaux de gens qui disent oui, ça mérite un quatrième mandat. Juste parce qu'il a réussi la cérémonie, les gens disent
ouais, il a fait. Mais il avait fait la même blague là, avec le pont, voilà, la construction du pont. Il a dit voilà le pont du quatrième mandat.
Mais en fait, en plus, ce pont là, ça s'inscrit dans un truc qui est très problématique, c'est qu'en gros, le mec, il met son nom un peu partout.
Alors, selon vous, comment la CAN mobilise-t-elle les fans panafricains en dehors du continent?
Le football, c'est un jeu de plaisir et d'émotion. Et qui bien joue, il y a un perdant et un gagnant. Mais ça ne doit pas affecter les relations humaines. Voilà, c'est pour le continent. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire organise que forcément ça doit rester ici. Nous sommes pays voisins. En Afrique, il y a l'Alliance. Voilà, vu l'Alliance, là, on se taquine, on se dit tout, mais le respect. Et puis on règne dans l'harmonie comme nos parents l'ont fait. Donc c'est pas forcément que... Je ne vois pas de méchant en fait. Juste dit que l'harmonie doit rester. L'harmonie doit rester. Pas de lavage de cerveau. On reste dans le même contexte. Et puis on avance ensemble. Peu importe si c'est Congo, Sénégal, Maroc, c'est l'Afrique qui gagne.
Non, c'est très bien parce que quand on voit les vidéos, nous on n'est pas sur place, c'est dommage, mais quand on voit les vidéos, on voit qu'il y a des gens de toutes les nationalités qui viennent. Bon, déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille beaucoup d'autres Africains. Il y a beaucoup de communautés. Communauté burkinabé, malienne, sénégalaise.
C'est l'Afrique en miniature.
L'Afrique en miniature. Ça dépasse même la sous-région. On voit, il y a beaucoup de Camerounais qui commencent à venir, les Congolais, ils font des vidéos. Tu vois, le Congo, par exemple, ils ont fait une vidéo où ils disent au Congo de Brazzaville, j'ai veillé le fleuve. Tu vois, donc c'est intéressant de voir ça, de voir que les pays entre eux communiquent, ils essaient de se charrier. Tant que ça reste bon enfant, c'est une bonne chose.
Mais c'est ça qu'il y a à noter, c'est que pour une fois, on n'a pas de débordement, c'est vraiment bon enfant.
Très bon enfant, pour l'instant.
Même quand il y a des matchs, pour l'instant, vois les supporters voyants aller soutenir les Maliens, etc. Il y a de la fraternité, il n'y a pas de dérapage. Il y a eu un seul dérapage avec la supportrice algérienne. Il y a eu un autre supporter algérien aussi.
Mais même là, en fait, il y a une sorte de concurrence, je ne sais pas d'où ça sort, entre les Ivoiriens et puis les Camerounais. Et puis, il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre. Ils disent que ça commence à aller un peu loin. Ils commencent à s'insulter. Tu vois, même au Cameroun, par exemple, il y a des gens, des supporters qui ont marché sur le drapeau ivoirien, qui huaient les Ivoiriens pendant qu'ils faisaient l'hymne national, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont quand même des ressentiments.
Mais surtout, qu'est-ce que font les autorités, notamment du coup, les autorités ivoiriennes, par rapport à ces débordements, ces prémices de débordements?
Même avant que la CAN commence, Il y a des gens qui commençaient à dire on va boycotter la CAN. Qui disaient ça parce que la vie devient tellement chère que les gens se disaient mais la vie est chère, on veut nous faire aller à une CAN qui va engranger tellement de sous qu'on n'a pas. Et donc ils disaient nous on va boycotter la CAN. Et il y a quelqu'un qui a écrit ça sur Facebook et puis la police cybercriminelle a débarqué, enfin en tout cas l'a mis en prison. En garde à vue. Okay. Juste parce qu'il a écrit boycottons. Il a juste écrit boycottons la CAN, il est allé en garde à vue. Donc, il y a quand même une restriction des libertés.
Une sur-surveillance, quoi.
Ouais, une surveillance très accrue qui, pour moi, est dangereuse quand même.
C'est assez intéressant, tout à l'heure, tu as un peu parlé de la richesse culturelle, le fait qu'en Côte d'Ivoire, on retrouvait un peu pas mal d'ethnies, de groupes et compagnie. Et selon vous, comment la CAN, en fait, fait ressortir cette richesse culturelle ? Au-delà des frontières ivoiriennes, bon, du coup, on a deux Ivoiriens, c'est un peu plus intéressant. Au-delà des frontières ivoiriennes, comment cette richesse-là se déverse sur le continent et aussi dans la diaspora, comme nous ?
La musique, déjà. Parce qu'en ce moment, bon, il y a encore les Nigériens et les Sud-Africains, mais les Ivoiriens aussi, ils sont pas mal là. Après, j'étais un peu déçu concernant le casting là, pour la cérémonie d'ouverture. Je m'attendais à voir tous les gros artistes de la scène ivoirienne. Je me suis dit, là, c'est l'occasion de montrer, oui, le made in Côte d'Ivoire. Mais...
La chaîne ligne officielle, bah non, là, on ne reconnaît pas parce que nous, le son qu'on connaît, c'est le coup du marteau de Tamsir.
Moi, j'aime bien l'hymne officiel.
Ouais, genre, ça, moi, ça j'aime bien, tu vois. C'est vraiment fait pour une compétition sportive.
Voilà, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est réussi quand même.
J'aurais aimé quand même un clin d'œil au made in Côte d'Ivoire. Ouais, Par exemple, si la CAN était au Sénégal, j'aurais du mal à voir, je sais pas moi, des artistes sénégalais juste de la diaspora ou d'autres pays. Mm-hmm. Je pense qu'ils mettront plus en avant leurs chanteurs, leurs artistes.
Ouais, moi, je m'attendais à des anciens.
Même au Mali. Je pense qu'on peut faire même 10 cérémonies avec des artistes. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, mais, mis à part ça, au niveau du style vestimentaire aussi, que la Côte d'Ivoire aussi est connue pour ça, notamment les baoulés, je crois.
Ouais, les tenues traditionnelles baoulées.
Donc, il y a aussi ça qu'on voit ressortir.
L'or, tout ça.
Il y a la nourriture aussi, surtout la nourriture.
La nourriture ivoirienne. Le gaaba, c'est la nourriture populaire. Moi, il y a des vidéos de Marocains qui vont dans les coins populaires pour manger la nourriture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est toujours appréciable de voir ça. Et surtout qu'au début, on avait des appréhensions. On se disait que cette CAN, il y a des gens qui commençaient à appeler la CAN des riches. Au début, les maquis, tu vois, les maquis étaient interdits de diffuser les matchs. Ça a créé un tollé. Mais finalement, ils sont revenus sur leur position parce qu'ils ont vu que, en fait, pour diffuser les matchs, ils devaient payer 1 million de francs. Alors que la plupart des maquis, bon, les gens qui tiennent les maquis, ils se débrouillent. Ils n'ont pas forcément ces moyens. Donc, ça a commencé à poser problème. Donc, finalement, ils ont rétro-pédalé parce qu'ils ont vu que la CAN, c'est des Africains qui ont des bourses plus ou moins fortes. Il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui viennent parce qu'ils veulent profiter. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne peux pas venir profiter de la CAN. Donc, ils ont rétro-pédalé. Et finalement, ça se passe bien à ce niveau-là. Les gens, voilà, ils ont accès à tout. Et il y a même une application qui a été mise en place pour montrer les coins où il faut dormir, où tu peux dormir, etc. Tu vois, donc, il y a des choses qui sont mises en place pour faciliter la vie de tout le monde. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien à ce niveau.
Ok, là, c'est assez intéressant. Et du coup, ça me permet de rebondir sur... là, on a parlé culture, alimentation, vestimentaire... Et tout à l'heure, enfin, t'en as parlé, genre, que ça venait un peu de la culture américaine. Et ça me fait penser à un joueur de basket, je crois. Soit c'est un basketteur, soit c'est un joueur de football américain, un Ghanéen ou Guinéen qui s'habille tout le temps en tenue
debout.
Voilà.
Ouais,
donc ça parle à tout le monde. Et j'ai l'impression que ça a commencé un peu avec lui sur les réseaux sociaux. Et ça s'est répandu.
Je pense qu'il a influencé quand même.
Il a pas mal influencé. Du coup, moi, j'ai vu des photos. Je me suis un peu intéressée aux différentes équipes. C'est pas mal, c'est très très beau, bon, il y a l'internet. Et donc c'est assez intéressant. Et si on dépassait le côté symbole et tradition qu'on a vu en premier lieu, y a-t-il d'autres symboles spécifiques associés à la CAN qui expriment l'unité africaine, au-delà des tenues que vous avez vues? Genre les premiers matchs, les supporters aussi. Est-ce que
l'ambiance dans les stades, même les vidéos qu'on voit, on voit même entre supporters qui s'affrontent, leur équipe s'affronte. On voit que ça se taquine, mais il n'y a pas d'animosité, c'est vraiment de la fraternité. C'est ça qui fait plaisir à voir. Parce que souvent, quand les gens ils parlent de panafricanisme, ils disent oui, que vous dites ça, mais il y a des pays qui ne s'entendent pas, etc. C'est la preuve que les tensions qu'il peut y avoir entre certains hommes politiques, parce qu'en réalité c'est ça, elles ne se répercutent pas forcément sur les peuples.
D'accord. Donc là, de ce que j'entends, c'est avec la diffusion des premiers matchs de la CAN, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette distance entre politique et un peu...
C'est faire une pause.
Oui, on essaie quand même de distancer les deux.
Parce que c'est pas ce que vous disiez tout au début, là.
On essaie. Moi, c'est fort.
Il y a les répercussions quand même.
C'est fort, mais on essaie. Tu vois, parce que si on veut vraiment mettre la politique, il y aura une sale ambiance.
C'est ça.
Parce qu'avant même que la CAN commence, les Ivoiriens, c'était compliqué pour eux, tu vois.
Okay. Donc on va enchaîner du coup sur notre deuxième partie qui lie plutôt économie et investissement. En quoi l'organisation et la tenue de la CAN actuellement en Côte d'Ivoire ont-elles un impact économique sur le pays, donc hôte, et les participants? Donc là, on peut partir de la Côte d'Ivoire actuelle, mais on peut aussi remonter sur les autres pays.
En tout cas,
grâce à la CAN, vraiment, on vend bien. Surtout le jour que la Côte d'Ivoire joue comme cela, le pays est animé, les choses marchent. Donc, quand la Côte d'Ivoire joue comme ça, vous dites comme cela, regardez-vous, ouais, les gens venir. Le village CAN, ça serait bien rempli. Ah, c'est rempli. Rempli. Oui, oui.
Il y a beaucoup de Sénégalais, non?
Ah, ouais.
Ils viennent pas.
Non, eux là, je sais pas s'ils ont fait des Ivoiriens. Quand eux, ils jouent là. Ils portent, ils viennent pas.
Ils viennent pas.
Même les Camerounais, le jour qu'ils ont joué là, ils n'ont pas porté le maillot de Cameroun. Ils ont porté le maillot de Côte d'Ivoire.
Ok. Bah, moi, je trouve que. Moi, j'aime bien tout ce qui est médias, l'univers des médias et tout. Avant, la CAN était diffusée sur Canal+. Donc, Canal+, Bolloré. Donc c'est lui qui avait les droits en fait de diffusion. Mmh. C'est lui qui empochait tout l'argent à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est NCI. Donc c'est une chaîne privée ivoirienne qui diffuse officiellement la CAN. Donc bon, la
Mais
chaîne...
BIN aussi, hein? En Europe aussi.
Ouais, BIN aussi, ouais. Bon, BIN,
c'est Qatar. Qatar,
hein. Qatari. Bon, voilà. Mais sinon, bon, voilà. Donc, et je pense que... Et d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud, qui diffusent aussi la CAN. Donc, c'est-à-dire... Les droits de diffusion commencent à devenir des enjeux importants et les acteurs locaux prennent cette responsabilité-là de diffuser la CAN avec leurs propres commentateurs, leurs propres émissions et tout.
C'est beaucoup mieux.
C'est clairement mieux et on se sent plus immergé dans l'ambiance même du pays et des autres pays africains. Donc pour moi, c'est déjà une manne financière qui est importante, qui revient dans le pays, bon, même si c'est un privé. Et au passage, NCI, c'est la chaîne de... la première dame, enfin l'enfant de la première dame. Bon, j'ai dit ça au passage, mais bon, c'est déjà une étape. Je me dis, au moins, ça sort du cadre. Bon, ça reste quand même un peu néocolonial, mais c'est un peu moins néocolonial que quand c'est Canal qui diffuse.
Sur le plan des infrastructures, déjà, il faut savoir que c'est pas tous les pays africains qui peuvent organiser la CAN parce qu'il y a une restriction qui est assez forte. Il y a pas mal, ils exigent des stades homologués au standard international, des hôpitaux qui sont capables d'accueillir les blessés en cas d'accident, des hôpitaux, des lieux de résidence de niveau minimum 4 étoiles. Ça c'est une façon que j'ai eue. Bon, j'ai eu en fait en écoutant un podcast avec le directeur de la COCAN. Donc, la COCAN, c'est l'organisme qui est chargé de gérer la com en fait, de la CAN. Et du coup, bah, c'est plein de critères comme ça qui, que en fait, plein de pays africains peuvent difficilement satisfaire. Du coup, c'est d'où le fait que certains, vu qu'ils ont un certain nombre de stades, ils s'associent à d'autres pays pour faire la CAN. Mm-hmm. Et du coup, là, en l'occurrence, pour la Côte d'Ivoire, je pense que, surtout avec le Nord, ça fait plaisir, moi, honnêtement, parce que c'est un peu une partie du pays qui a beaucoup été délaissée. Bon, c'est l'une des origines, l'une des sources en fait du conflit en Côte d'Ivoire. Parce que du coup, bah, les gens du Nord ne se sentaient pas concernés par ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Tout se passait dans le Sud. Et le fait qu'il y a le stade de Korogo et le stade de Boaké qui s'appelle La Paix. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle le stade de Boaké qui s'appelle La Paix. Le stade de La Paix. Parce qu'en fait, historiquement, c'est là-bas que la rébellion a commencé. Et du coup, il y a eu pas mal d'exactions et pas mal de victimes civiles là-bas. Et du coup, bah, c'est un peu le centre en fait, de la guerre. Et je pense qu'en mémoire en fait, à tous ces gens qui sont morts, bah, je pense que c'était le minimum à faire. Quoi. Après, honnêtement, sur le plan de la réconciliation en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'est pas du tout achevé. Il y a un gros fossé. Chacun fait semblant de ne pas voir. Il n'y a pas de mémorial à la mémoire des gens qui sont morts durant la guerre civile. Il n'y a pas de procès, parce qu'on sait qui sont les coupables. Ouais. Ils sont encore dans les gouvernements, on ne va pas citer le nom, mais on sait tous. Et il n'y a vraiment pas de volonté politique. Quoi. En gros, il y a une volonté d'amnésier, de faire en sorte que, bah, comme si rien passé. Quoi. Mais pour revenir en fait, aux infrastructures, je pense que c'est un très bon choix en fait, d'avoir fait Korogo, Boaké, San Pedro et Abidjan. Je ne sais pas s'il y a Amsoko.
Donc, oui, Yamoussoukro,
du coup, bah, ça fait vraiment toutes les régions de la Côte d'Ivoire, désolé pour les gens de l'Ouest.
Mais la guerre aussi, pendant les moments les plus durs de la guerre, l'Ouest a été touché. Ouais. Il y a eu, en un jour, il y a eu 900 morts à l'extrême Ouest. Ouais, c'était grave. Hein.
Donc, et aussi, c'est, on montrait que ces populations, bah, sont intégrés au sein du système du pays, parce que en bon, c'est toute la question des frontières, parce que aussi les gens, est-ce qu'ils se considèrent comme ivoiriens ou ils se considèrent d'abord dans leur comportement tous les jours, se considèrent comme s'ils appartenaient d'abord à leur ethnie avant d'appartenir en fait à l'État-nation. Du coup, bah, y a très peu d'adhésion en fait à l'idée d'État-nation, et c'est que récemment, je pense que les gens du Nord, vu que il y a eu en fait pas mal de gens de leur ethnie qui ont été intégrés au gouvernement, c'est que bah bon aussi pareil. Donc, ils sentent qu'ils font partie du pays, tu vois. C'est pas comme si ils étaient délaissés. Et là, en fait, il y a de plus en plus d'intégration. Et voilà, ça fait plaisir, quoi.
Mmh. Ouais, maintenant, pour revenir un peu sur l'économie, la Côte d'Ivoire est depuis un moment une plaque tournante de l'économie en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone, on va dire. On voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui viennent faire des affaires en Côte d'Ivoire. Et c'est un moyen aussi de renforcer ça, en fait. C'est un moyen pour des gens qui viennent du Cameroun, du Congo, de voir un peu les opportunités qu'ils peuvent avoir en Côte d'Ivoire. Et peut-être que des entrepreneurs ivoiriens, des entrepreneurs congolais, zambiens, peuvent faire des affaires pour s'associer, tu vois. Donc, c'est un moyen aussi de se rencontrer et de renforcer le commerce intra-africain. Je pense que c'est le plus grand défi des pays africains actuellement. C'est un très bon moyen. Et justement... en fait, la CAN, ça pousse un gouvernement à vraiment mettre l'accent sur les infrastructures. Parce que tu as besoin d'infrastructures homologuées, comme on l'a dit, au rang international pour pouvoir accueillir la CAN. Donc, c'est un bon moyen, en fait, de se mettre la pression pour construire les infrastructures nécessaires, notamment les infrastructures sanitaires. Par exemple, une chose qui est appréciable, c'est que grâce à cette CAN, par exemple, il y a beaucoup de terrains de foot dans les lycées, dans les collèges qui ont été rénovés pour que les équipes puissent s'entraîner dedans, tu vois.
En parlant de ça, en fait, c'est la première fois que chaque équipe en fait a son terrain d'entraînement.
Ouais, exactement.
De toute l'histoire de la CAN.
Ouais.
Ok. Ouais,
il y a beaucoup de records qui ont été battus.
Mais d'ailleurs, pour cette édition, il n'y a pas encore des équipes qui ont été rajoutées. Enfin, du coup, en faisant des recherches, j'ai vu que la CAN a évolué pas mal.
C'est 24.
Ouais, oui, je crois.
24, ouais. Avant, c'était 18, je crois, un truc comme ça. Maintenant, c'est à 24.
Ce n'est plus, hein, alors, attends. Après, j'ai trouvé plus.
Parce que moi, j'ai compté.
32.
Oui, 32, oui. C'était à 24 avant, là, ils sont passés à 32.
Donc, c'est ça.
C'est quand même assez, assez ouf. Hein.
Bon, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, après, ça.
Après, on est quand même sur une domination des pays d'Afrique de l'Ouest.
Clairement.
Il y a une surreprésentation des pays d'Afrique de l'Ouest, quoi. Mais d'un côté, ça peut peut-être créer une émulation, d'où la surprise avec la Zambie, mais je pense que là, il y a la Namibie qui joue pas mal, qui joue très bien. Mm-hmm. Et on a vu avec la victoire face à la Tunisie. Je pense que ça va promettre quelque chose de bien, quoi.
Non, mais en Afrique, si on parle de vraiment football africain, ça reste quand même l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud et le Maghreb, où il y a vraiment un vrai football.
Quoi? En Afrique australe, Afrique de l'Est,
Les meilleurs championnats africains.
Oui, bon, ça c'est une bonne question. Okay. C'est un bon point.
Donc, c'est de me présenter quels sont les différents championnats, au moins les grands sur le continent.
Il y a l'Égypte.
L'Égypte, ouais. L'Égypte, c'est
Maroc.
Ouais. Maroc.
Algérie aussi.
Ouais.
Afrique du Sud.
Tunisie, Afrique du Sud.
Congo aussi.
Congo. Okay. Il y a une surreprésentation des pays d'Afrique de l'Ouest, mais en même temps, dans ces pays-là, les championnats ne sont pas de très bon niveau. Tu vois, en fait, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui n'est pas connu pour un football incroyable, mais ils ont un championnat. Beaucoup de joueurs d'Afrique de l'Ouest vont en Afrique du Sud pour jouer.
Ou au Maghreb.
Ou au Maghreb. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, ça colle avec la direction économique des pays. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est déjà industrialisé. En fait, c'est un pays. En grande partie, en tout cas. Et qui compte sur ses propres forces pour se développer. C'est pas un pays qui importe tout comme en Afrique de l'Ouest, tu vois. C'est un pays qui importe, exporte. Donc le déficit est moins important, le déficit commercial est moins important que dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ça se ressent dans le football. C'est-à-dire que si le championnat local est bon, l'équipe nationale va être bonne parce que la plupart des joueurs viennent du championnat local.
Ben c'était ça en Afrique du Sud.
C'est ça, tu vois, c'est vraiment ça. Alors que l'Afrique de l'Ouest, les centres de formation sont plutôt bons, mais ils sont bons justement pour exporter.
Ils font partie des meilleurs.
Ils ont les meilleurs centres de formation, mais justement, en fait, le but, c'est d'exporter les gars
vers... Il y a trop de partenariats avec l'extérieur.
Voilà. Donc, en fait, les championnats locaux sont complètement délaissés et tout est fait pour que on forme quelques joueurs qui sont très bons, qui vont aller en Europe.
Okay. Et il y a vous avez deux, trois noms à me dire, par exemple, dans le cadre du championnat, enfin, du coup, de l'absence du championnat ivoirien, ouais. Et ceux qui sont, du coup, en extérieur. Genre des noms.
Bah, en fait, moi, c'est plus avant, mais c'est vrai que ouais. Une génération dorée avec la SEC Mimosa. La SEC Mimosa, c'est l'équipe phare, en fait, le club phare, en fait, de la Côte d'Ivoire, qui a donné, en fait, naissance à Kalou. En gros, dis-toi que sur l'effectif en fait, de l'équipe nationale, ceux qui ont gagné en tout cas la CAN la dernière 2015, fois, ouais. Bah, près de la moitié, ils venaient en fait, de la SEC. Quoi. Mm-hmm. C'est ce qui est un exploit, parce que d'habitude, en fait, ils ont tendance à rappeler les gens qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est, je pense que l'idée serait que de se baser sur les joueurs locaux pour ensuite compléter avec les joueurs externes pour faire l'effectif de l'équipe nationale. Mais généralement, c'est assez rare de voir que l'effectif il est majoritairement constitué de joueurs qui jouent localement.
Mm-hmm. Alors que l'Afrique du Sud, c'est différent. Tu vois, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, beaucoup de joueurs sont locaux. C'est, pour moi, je préfère cette formule plutôt que la formule de tout exporter et de sélectionner quelques-uns, tu vois, de l'extérieur. Et en plus, ça pose des problèmes parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les championnats européens et qui ne peuvent pas venir actuellement à la CAN parce qu'ils sont dans des grandes équipes qui ne veulent pas laisser leurs joueurs africains. Tu vois, par exemple, le Cameroun, le gardien Onana, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Et il joue à Manchester United et le club ne veut pas le laisser partir, tu vois, parce qu'ils ne veulent pas le laisser jouer à la CAN.
Je peux rebondir en disant, est-ce que c'est pas aussi une sorte de... une sorte aussi de contrôle, enfin, je trouve ça assez intriguant que des clubs qui, de mon point de vue de novice, devraient avoir moins de pouvoir que les équipes nationales,
normalement,
ne laissent pas partir des joueurs.
Mais c'est parce qu'ils ne considèrent pas la CAN comme une grande compétition. Ils estiment que il serait mieux pour eux de rester dans le club plutôt que d'aller à la CAN. Et la CAN, c'est vrai qu'il y a une émulation un peu plus importante qu'avant de la CAN, mais ça reste quand même très faible, tu vois. En termes de personnes qui regardent, c'est d'abord la Coupe du Monde, évidemment. Ensuite, c'est l'Euro. Ensuite, c'est la Copa América. Et après, c'est la CAN, tu vois. Et peut-être même que la Coupe d'Asie est plus regardée que la CAN, je sais pas, mais...
Non.
Non, mais c'est possible, hein.
Peut-être,
c'est possible.
En termes d'effectifs.
Ouais. Tu vois. Donc, ça reste quand même... c'est pas une compétition qui est regardée de tout le monde. Ça, c'est de plus en plus regardé, mais ça reste quand même marginal. Donc, beaucoup de clubs se disent, mon joueur, il est dans un grand club, on ne va pas le laisser aller en Afrique, il va rester avec nous.
Après, ça se trouve, c'est plus un mépris,
ouais, c'est un mépris.
Institutionnel. Mmh. Mais le problème aussi en Afrique, c'est qu'ils ont une mauvaise vision du football. Ils voient le football un peu toujours comme un divertissement ou un moyen de calmer les ardeurs du peuple quand il y a des problèmes politiques. Alors que dans les autres pays, par exemple en Europe, pourquoi c'est une économie. On parle de football business. Donc, est-ce que le problème aussi, c'est pas le modèle qui est mis en place? Si on avait un modèle vraiment économique, réellement, une économie du football, peut-être que les dynamiques changeraient. En Afrique du Sud, c'est ce qu'il y a. Il y a une économie du football.
Exactement.
En Égypte aussi. Donc,
Bah, c'est pas quand ce que je disais, c'est aussi ce que disait le président de la Cocane. Il disait que du coup, il y a le football, dans la plupart de certains pays, il n'est pas professionnalisé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un écosystème pour vendre les... surtout les clubs, en fait, pour vendre les maillots, inciter en fait les supporters à venir voir plus souvent les matchs, payer les tickets, créer une réelle communauté autour des clubs.
Mais regarder les matchs aussi à la télé, tu vois.
Oui, c'est dommage. On espère qu'avec la CAN, du coup, vu qu'avant avant la CAN, dis-toi que FC San Pedro, qui est dans le littoral, tout à l'ouest, il devait venir à Abidjan pour jouer tout le match, ce qui est un peu loin.
Ils n'ont pas de
stade chez eux. Du coup, là, maintenant, avec la CAN, ils auront un stade à domicile. Mm-hmm. Je pense que FC Korogo, ils auront... je pense que ça ne peut pas FC Korogo, mais
ils
seront Korogo, ils auront leur match, ils auront leur stade où ils pourront accueillir les matchs.
Ils seront attitrés à ce club. Parce que ici, les stades appartiennent au club.
Ici, c'est lié au fait que, en fait... ils investissent énormément dans les infrastructures, après ils ne savent pas quoi en faire. Du coup, ils sont obligés, en fait, soit de... l'exemple parfait, c'est le Stade de France. Le Stade de France, en fait, quand ils ont construit le Stade de France, tout le monde était content, mais à la fin, ils ne savaient pas... Personne ne savait ce qu'ils
voulaient
en faire. Du coup, ils ont dû le vendre, en fait, à la fédération de rugby, fédération de foot, et aussi l'événementiel et tout. ça c'est un business aussi, mais après nous typiquement les stades en vrai je pense pas que ça dure longtemps. Ah bah moi ce qu'il y a une vraie volonté pour entretenir, parce que là c'est tout beau, mais une fois que
dans la cinq ans,
dans 5 ans ça sera compliqué en fait.
Et j'allais rebondir dessus en me disant bah faut qu'on revienne dans 3-5 ans pour voir comment c'est entretenu, parce que là ils ont construit, c'est une vitrine.
C'est tout beau pour
l'instant. Une vitrine, une réconciliation pour le stade de la paix, mais dans 5 ans, est-ce que ça sera toujours la même chose?
En tout cas on se pose la question, hein. Moi bon, j'attends de voir, j'espère être agréablement surpris, mais...
Rendez-vous dans 5 ans. Ouais. Mais je vais rebondir sur un autre point, notamment quand on parlait des joueurs du coup, qui jouent en externe, enfin, du coup, notamment en Europe. Je pensais à un poste que j'ai vu, c'était un ancien entraîneur, un entraîneur actuel d'une des équipes, qui disait qu'il était de plus en plus fier de voir que les entraîneurs des équipes étaient de plus en plus issus du continent. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Ouais, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Je pense que la Côte d'Ivoire, mauvais exemple.
Moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai vu. En fait, il y a 11 équipes qui ont des entraîneurs locaux sur la totalité
des
équipes. Ouais. Sur des 32. 11 équipes. Donc, ça commence, mais c'est pas encore. Normalement, dans tous les autres pays du monde, ça se fait pas comme ça. C'est rare de voir un pays européen ou sud-américain où l'entraîneur n'est pas du pays. C'est très rare. Mmh. Et ça...
En Europe, si, ça se fait quand même.
Pas c'est beaucoup. Hein.
T'imagines le tollé que ça serait en France? Le sélectionneur de l'équipe de France,
c'est... Oui, en France. C'est parce que, bon, la France, ça reste un pays de football. C'est pas un pays de sport, mais c'est un pays de football.
On parle d'équipe nationale. Hein.
Oui. Mais en Belgique, l'ancien entraîneur, là, même Thierry Henry, il était adjoint, c'était pas un Belge. Ouais. Ça se fait, mais ça dépend des nations.
Ouais. Mais en tout cas, il y a un appel, il y a beaucoup de gens qui appellent à ce que les coachs soient...
Mais est-ce qu'il y a des coachs aussi disponibles?
Bon, c'est ça aussi la question.
Si ce n'était pas Gassé, on aurait pris qui pour coacher la sélection?
Il y a un coach qui s'appelle Zawi, qui était très bien, que tout le monde connaît, qui a entraîné l'équipe déjà tu vois, pendant les années 2010, l'âge d'or de... Tu vois, enfin.
Donc en fait, il faudrait faire confiance.
C'est
plus
à confiance que
autre
chose.
Hein. Et quand il est venu, c'était pas le meilleur entraîneur. Ils ont
voilà,
10 ans
quoi.
Voilà,
c'est ça en fait. C'est ça aussi. Il y a peut-être même.
Du court-termisme. Le même court-termisme voilà. Qu'on voit en politique qui se retraduit.
C'est ça,
dans...
voilà, c'est ça.
Bah, c'était le cas avec Hervé Renard. Hervé Renard, c'était un peu un mercenaire. Quoi. Chacun appelait pour qu'il soit en contrat de 1 à 2 ans après ce casse.
Il a des résultats.
Après lui, il a gagné 2 cases. Non, mais Hervé Renard, c'est une exception.
Ouais.
C'est une récession parce que bon, le gars il a fait un hold-up, pour être honnête, mais ouais, c'est un peu dommage quoi. Et même, fait, on n'est pas sur un projet, bon, on n'est pas sur des projets Mbappé, tu vois, des projets long terme. Il n'y a pas, là en fait, je crois que parmi les équipes, là, je crois que l'équipe d'Angola, c'est une équipe de U en fait, qu'ils ont repêché. Oui. C'est une très jeune équipe en fait. Du coup là, c'est leur projet en fait, ils vont mettre en place pour maturer sur 5-10 ans.
Et ça aussi au Mali aussi.
Pour essayer d'avoir des résultats quoi.
Ouais, Mali, Sénégal aussi. Ouais, et du coup, je voulais te dire en fait que on remarque que la plupart des équipes, quand les coachs ne sont pas locaux, ce sont des. Par exemple, pour les francophones, tu vas voir que ce sont des entraîneurs français. Tu vois, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali aussi.
Non, nous c'est un. Bon, nous c'est un métis, mais c'est un malien.
Ouais, ok.
En plus, il est à Abidjan.
Ah, donc, ok, d'accord, j'arrive pas. Mais du coup, tu vas voir que beaucoup de pays francophones vont avoir des coachs français. Tu vas voir que l'Angola, le coach est portugais. Donc, il y a quand même toujours ces liens néocoloniaux qu'on observe, tu vois. Mais ça commence à diminuer.
Okay. Il faut du temps. Mais une autre question, du coup, pour être entraîneur, il faut absolument avoir été joueur de foot ou il n'y a pas une école qui forme des entraîneurs,
si.
Comme ça.
Il y a des écoles qui forment les entraîneurs. On n'a pas forcément besoin d'être... joueur de foot pour être entraîneur.
Mais c'est toujours mieux, on va dire. Mais c'est pas gage de compétences.
Oui, c'est pas un marché où il y a des appels d'offres, on cherche un entraîneur. C'est un truc un peu niche, quoi. Du coup, c'est un peu, ça marche au réseau et tout, quoi.
Ok, bah merci. C'est très intéressant pour cette deuxième partie sur économie et investissement.
Il y a aussi les économies locales, les maquis et tout, ça retombe sur eux. Ils font beaucoup de bénéfices. Hein.
Oui, clairement, par rapport à ce que tu disais, genre le fait qu'au début, ils ont interdit aux maquis de diffuser les matchs, maintenant, ils ont laissé
aller. Et donc, il y a une grande influence dans les maquis.
Parce que du coup, il y en a quand même beaucoup, en Côte d'Ivoire.
Il y en a plein, il y en a partout, dans toutes les villes.
Donc, c'est plutôt population locale, classe moyenne.
Voilà, classe moyenne, classe populaire, plutôt classe populaire même, et qui vont remplir les maquis.
Et du coup, en tant qu'Ivoirien et même non-Ivoirien, du coup, le fait que le pouvoir en place autorise cela. C'est pas potentiellement un geste politique, mais aussi de com. Parce qu'imagine s'ils arrêtaient, comment auraient réagi les gens qui fréquentent ces maquis-là.
C'est toujours ça. Hein,
c'est parce que justement, les gens commençaient à réagir. Et en fait, c'est pas directement le pouvoir en place qui a rétro-pédalé, c'est le COCAN, l'organisme qui s'occupe de la CAN. Mmh. C'est lui qui a dit non, mais finalement, on va autoriser les maquis à diffuser.
Oui, parce qu'il faut dissocier. C'est la CAN qui gère la majorité de l'organisation en collaboration avec l'État. Parce que je m'étais intéressé, je me suis dit, la Côte d'Ivoire a investi autant d'infrastructures, mais est-ce qu'il y aura des retombées économiques réelles pour l'État directement? Et en fait, bah pour les billetteries, par exemple, la majorité des revenus, ça revient
à
la CAF, non?
À
la
CAF.
Okay, et on va dire quelques miettes reviennent à.
Mais je pense pas que le but, ce soit que la CAN soit rentable. Je pense pas. En fait, la CAN, ça peut pas être rentable. Quand tu
t'es endetté. À la Coupe du Monde, par exemple?
Même la Coupe du
Monde. Bah, l'Afrique du Sud.
Même la Coupe du Monde. C'est-à-dire que quand tu t'es endetté à ce point pour construire des infrastructures, comment tu veux, c'est pas les billets à 2000 francs qui vont rembourser ça. C'est impossible.
Non, oui, justement.
C'est impossible.
Oui, parti pris.
Oui, mais en fait, le but, c'est de présenter ton pays comme une vitrine. Oui. C'est le branding dont Lamine parlait.
Oui. Mais moi, je parle juste en termes de proportion et de respect du pays hôte. C'est comme si je te dis, je vais en vacances quelque part, je paye un Airbnb, mais si tu veux, l'argent du Airbnb, ça revient pas au propriétaire, ça revient au mec qui a posté l'annonce sur Airbnb. C'est pas... Je trouve qu'on pourrait quand même améliorer la balance.
Ouais, bien sûr, on peut améliorer, mais je pense pas que le but d'une CAN ou d'une compétition comme
c'est pas d'être rentable.
Ce soit d'être rentable, je pense pas du tout.
Mais ça peut l'être sur autre chose, comme l'Afrique du Sud, quand ils ont organisé la Coupe du Monde.
Mm-hmm. Ouais, ça peut l'être sur autre chose. Et je pense que le but, justement, c'est de faire ce branding-là, c'est de se présenter comme une nation.
Aussi faire du lobbying, ce que certains appellent du lobbying, d'autres de la corruption. Tout ça pour dire que voilà, le sport, c'est un enjeu politique et... c'est un bon moyen aussi soit de promouvoir ses propres intérêts, dans le cas de dirigeants assez...
Ce n'est que ça, que ce soit régime démocratique ou régime...
Ça m'intéresse pas trop, mais c'est plus au niveau de la vision qu'on veut avoir pour le pays. On va dire, le sport, c'est un des moyens palpables de voir réellement si le pouvoir en place, il a une réelle vision pour le pays ou pas. Si tu n'as pas des stades... en état de fonctionner, si tu n'as pas des hôpitaux, etc., tu ne peux pas accueillir la CAN.
Oui.
Donc, déjà, si tu n'as pas les besoins primaires, les hôpitaux, les infrastructures, et que tu ne peux pas accueillir la CAN, ça veut dire qu'il y a un
problème. Déjà, il n'y en a pas. Ça a été construit pour la CAN, mais les Ivoiriens eux-mêmes, ils ne bénéficient pas forcément d'infrastructures. Même si, en comparaison avec d'autres pays, la Côte d'Ivoire, est quand même, pour être réaliste, est mieux dotée en infrastructures que les autres pays. Mais c'est quand même c'est largement insuffisant en fait pour les populations.
Bah, ça me permet du coup d'enchaîner sur la troisième et dernière partie du coup de cet épisode sur la politique et l'unité continentale et plus particulièrement sur tout ce qui est diplomatie sportive et impact politique interne. Donc vous parliez un peu du coup de ce qui va rester pour la population, comment ils vont en bénéficier. Donc dans quelle mesure selon vous la CAN est-elle un terrain pour la diplomatie sportive entre les nations africaines? Donc vous avez parlé un peu du geste de cette influenceuse qui a finalement été rappelée dans son pays par son ambassade et pas par le pays hôte. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un manque total de leadership. Parce que imaginons qu'on soit par exemple à l'Euro et qu'une supportrice allemande crache sur la France et l'Euro est organisé en France. Je pense pas que ce soit l'ambassade d'Allemagne
mais
en France.
Moi, je pense que rien ne va arriver, en fait.
Qui va
en fait, je comprends même pas l'idée de renvoyer quelqu'un parce que la personne a critiqué quelque chose.
Critiqué. Quand tu dis pays d'esclaves, c'est pire qu'à la préhistoire, c'est un manque de respect.
À la limite... Tu lui colles une condamnation, le procureur peut s'en charger. Mais tu ne vas pas chasser quelqu'un parce que la personne n'a pas aimé ton pays.
Moi, ce qui m'a gêné, ce n'est même pas le fait qu'elle ait été expulsée. C'est le fait de le leadership de cette expulsion. C'est que c'est l'ambassade du pays en question qui demande l'expulsion. Alors que normalement, si expulsion il y a, c'est le pays hôte qui exige.
Pour moi, on ne doit même pas tenir compte de ça, en fait.
Du coup, on va essayer de sortir un peu de ce débat-là. Intéressant, bah, du coup, que vous dépassiez le geste de cette supportrice au rapport quand même de diplomatie entre le pays et qui positionne un peu la question du leadership du pays hôte et bah, en fait, du pays d'où vient la supportrice. Donc ça, c'est aussi un débat qui revient un peu ce qu'on dit aussi par rapport aux, bah, aux entraîneurs, pourquoi les entraîneurs viennent de, bah, d'Europe et compagnie. La dernière CAN est organisée où ?
Au Cameroun.
Au Cameroun. Et donc, enfin, vous regardez toutes les CAN depuis toujours ?
Oui, depuis très petit. Okay. Ouais.
Avec votre recul de toutes les CAN, est-ce que vous êtes en mesure de dire comment les performances de l'équipe nationale dans différentes CAN peut influencer la politique interne des pays ?
Nous, la question c'est vite répondu. Hein. Ouais. On a une très lourde histoire, notamment avec l'histoire de la qualification des éléphants pour la première Coupe du Monde. Mm-hmm. Lorsque le match a eu lieu à Bouaké, en fait, c'était dit que si... En gros, Doba avait demandé, en fait...
Pendant la guerre,
que s'il gagnait, il devait, en gros, les rebelles devaient faire un cessez-le-feu ou déposer des armes. Et ils ont gagné. Du coup, il a fait le tour du stade. C'est dévêti. Et du coup, bah, c'était vraiment un truc lourd, quoi. Ouais. D'où c'est là qu'il a eu la stature de légende, parce que du coup, ça, il dépassait en fait le cadre juste sportif. Ouais. Et aussi, avec la victoire des... Après, en fait, leur génération, c'est un peu une génération dorée qui n'a pas pu gagner en gagnant de Cannes. Parce que du coup, je me rappelle de leur tir au but face à la Zambie, le jour où je regardais, en fait, il y avait coupure d'électricité. Donc, toute ma ville était dans l'obscurité. Du coup, on écoutait en fait le tir au but à la radio. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, s'ils gagnaient à ce moment-là, en fait, c'était vraiment une consécration de plusieurs années. Parce que sur les trois années, ils étaient tout en phase finale. Quoi.
Ouais, ils étaient trop forts.
En demi-finale, en finale pour des bêtises, tu vois. Et je pense que toutes les occasions gâchées, ils ont pu le concrétiser en 2015. Et c'était incroyable. Aussi, on voit très bien la récupération politique immédiatement. C'est-à-dire que il dit oui, moi je suis au pouvoir, du coup on a pu gagner la CAN. Voilà. Et en vrai, moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était plus, on fait une tradition, dès qu'ils gagnent, bah, tout le monde sort, en fait. On sort, on s'accourait dans la rue, c'est jour de fête, littéralement. Ouais.
Même le lendemain était férié.
Il était férié, hein. Ouais. c'est incroyable, hein.
Ouais. Au Mali, ça a de l'impact, on va dire, social. Mm-hmm. Mais dire que le football a un impact politique, non. Après, étant donné que c'est une affaire, on va dire, nationale, évidemment que les politiques sont intéressés par la question, mais je dirais que ça dépend des pays. Au Mali, ce n'était pas la priorité jusqu'à présent. Là, je pense que ça commence à devenir la priorité. On l'a vu avec le choix du sélectionneur, etc. Mais ça dépend des pays. Quand il y a des pays où les tensions sont très fortes, là, le football, c'est un moyen d'apaiser les tensions et d'unifier le pays. Mais sinon, après, c'est juste... un fait de société comme un autre, comme une fête nationale, comme un concert d'un grand artiste. À moindre échelle, c'est pas le même niveau, le même impact, mais c'est un peu la même catégorie, on va dire.
Deux dernières questions pour vous, enfin surtout une question en deux parties. Quel héritage la CAN laisse derrière elle et quelles sont les perspectives d'avenir pour ce grand rendez-vous en fait, pour le continent ?
Bah, moi, je pense que la CAN est amenée à gagner en influence, à devenir de plus en plus importante, à condition que le niveau soit vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au début, parce que à chaque fois quand la CAN commence, les attentions sont tournées un peu quand même sur la CAN. On se dit, ah, les Africains, ça commence à être bien, le football africain commence à vraiment être à un bon niveau. Et souvent, beaucoup de commentateurs, notamment européens, disent qu'ils sont déçus à la fin. Ils disent que finalement, ils s'attendaient à un meilleur niveau. Je pense que le défi, c'est vraiment, on a parlé des championnats locaux, c'est vraiment de renforcer les championnats locaux. Parce que c'est à partir de là qu'on peut construire des équipes solides qui viennent du local, tu vois. Donc, et ça construit vraiment une industrie du football. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'exporter tout le monde à l'extérieur, d'exporter, même pas tout le monde, une minorité à l'extérieur, et les faire venir à la CAN pour espérer gagner. On a tout sur place. Et justement, ça règle beaucoup de problèmes. Comme je disais, beaucoup de joueurs sont empêchés de venir à la CAN parce qu'ils sont dans des clubs européens. Si les championnats locaux étaient suffisamment structurés, on n'aurait pas ce problème-là parce que les choses seraient agencées de telle sorte que tout concorde. Championnat local, CAN, tout concorde, tu vois. Donc ça réglerait beaucoup de problèmes. Donc moi j'espère que avec le temps ça va s'arranger, même si bon c'est pas si facile que ça.
Bah en vrai les CAN c'est après toutes les deux ans, donc parler d'héritage serait compliqué. Je dirais que ça laisse un héritage émotionnel. On se souvient beaucoup plus des émotions, des moments qu'on a pu vivre pendant la CAN plutôt que des infrastructures ou quoi, parce que bon, les infrastructures elles sont construites pour du court terme, c'est-à-dire on construit des infrastructures pour la CAN, après on oublie tous les investissements qu'on a fait et les perspectives pour la CAN et même pour le football africain s'annoncent plutôt intéressantes. On peut voir que dans de plus en plus de pays, l'État fait l'effort de mettre les moyens. On le voit au Sénégal, on le voit dans d'autres équipes nationales, au Mali par exemple, au Burkina, etc. L'État met les moyens, bon, à moindre échelle que certains pays. Le Sénégal et le Mali, pour l'instant, ce n'est pas les mêmes moyens, mais il y a quand même ces efforts-là. Bon, dans d'autres régions d'Afrique, Tanzanie, Afrique du Sud, les moyens sont déjà là, mais ça continue encore plus. Et surtout aussi, j'ai vu récemment l'ambition du Maroc d'organiser la Coupe du Monde. Donc ça fait plaisir.
La Coupe du Monde, ouais.
Ouais, ça l'Afrique du Sud l'a déjà fait. Ouais. Et le Maroc veut l'organiser avec l'Espagne, je crois.
Mm-hmm. L'Espagne et le Portugal.
Ouais. Donc ça fait plaisir. Mais surtout aussi les performances à la Coupe du Monde. On a vu le Maroc franchir le pas des demi-finales.
Huitième de finale.
Ouais, ils sont allés en demi.
Ouais.
Bon, le Sénégal, bon, ils auraient pu aller plus loin. Mais bon, on va dire que c'est l'expérience qui veut ça.
Il y avait le Ghana aussi à une époque là. C'était.
Donc, en 2010, je crois.
Ouais.
Donc, le football africain fait plaisir à voir. Aujourd'hui, avant la CAN, c'était plus. On prend des joueurs qui ne savent pas trop jouer ensemble. Mmh. On a un football un peu approximatif. Là, on a vraiment du ballon. Là, on peut dire qu'il y a des choses intéressantes à voir, même si bon, c'est pas encore au niveau des autres grandes compétitions continentales et internationales. Mais il y a de belles perspectives pour le football africain.
Oui, mais en tout cas, de toutes les manières, au vu de la situation politique, géopolitique et démographique, ça ne peut que aller parce que on aura beaucoup de plus en plus de jeunes qui vont s'intéresser. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait? Parce que mine de rien, on est un peu une génération pivot. Qu'est-ce que nous on fait à notre niveau pour pouvoir même créer des institutions qui vont nous créer des opportunités pour les jeunes qui vont venir après nous et aussi être là au moment du changement? Parce que très souvent, on se plaint des gens avant nous, ils n'ont rien fait. Je pense que les gens dans 20 ans, 30 ans, ils vont dire que nous, on n'a rien fait. Ce serait la même chose si là, on ne crée pas des trucs, on ne propose pas des solutions et qu'on se plaint tout le temps. Mais après, moi, ce n'est pas ma zone d'action, mais je pense que pour ceux qui sont intéressés par le foot ou le sport en général, il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses qui doivent être faites. Et de manière, l'univers a ouvert du vide. Hein. Si ce n'est pas nous qui le faisons, les autres personnes vont le faire. Et jusqu'à présent, les choses ont montré que... tout ce qui est talent africain, c'est pas les Africains qui en profitent. En fait, si quand un Africain gagne 1 million, il y a toute une équipe avant lui qui ont gagné 10 millions avant, quoi. Parce que voilà, on est dans un système où on ne maîtrise pas en fait la chaîne de valeur. Et il est important pour nous voir en fait avoir un regard froid, parce qu'on n'est pas obligé d'être fan de football en fait pour investir dans le foot. Ouais. Faut ça, il y a plein de personnes qui se méprennent, mais la plupart des gens qui investissent dans les gros clubs, ils s'en foutent du foot, ils voient un système, ils voient un marché, ils investissent, retour sur investissement, c'est très froid comme approche. Ouais. Et très souvent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont un regard très froid sur le business. Hein. C'est pas, après, les footeux, ils ne vont pas aller jusqu'à ce niveau d'implication, pour dire oui, il faut que j'investisse, il faut que je truc. C'est plus en fait des gens qui ont une approche très business de truc, qui vont investir, créer des opportunités pour les gens, et eux, ils veulent juste un retour sur investissement. Et ça aussi, il faut le comprendre en fait. Du coup, je pense que le fait que la compétition soit sur 2 ans, ça permet du coup une certaine récurrence. Mais après, peut-être que sur le long terme, ils vont peut-être étaler sur 3 ans ou 4 ans. Là, pour l'instant, je pense que c'est une très bonne dynamique 2 ans. Et après, on verra bien ce que ça donne.
Je remercie d'avoir participé à cet épisode. Merci. Pour votre temps, pour votre réactivité et pour tous ces éclairages.
Moi, j'ai aimé en tout cas, j'ai tout aimé. On a bien organisé, tout s'est bien passé. Voilà.
Bon, en tout cas, encore merci beaucoup et.
Une prochaine peut-être.
Peut-être hein, sur d'autres épisodes.
C'était le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. N'oubliez pas de vous abonner pour écouter ou réécouter nos épisodes. Et surtout, retrouvez toutes les activités de la MECAS sur Instagram, Twitter, actuellement X, Facebook et LinkedIn. À très vite!